Donc, rebonsoir. Alors, je suis Béatrice Dubel, réalisatrice de films documentaires. Et on avait ouvert le cycle en projetant Elbir, le film que j'avais réalisé sur le père Carteron. Ça va, vous m'entendez là? C'est suffisant? Donc, en fait, c'est ce film, enfin, je vais en dire deux mots pour les gens qui ne l'ont pas vu. Qui a un peu lancé en quelque sorte toute cette démarche, qui a abouti plusieurs années après à la réalisation des deux expositions qui ont eu lieu l'année passée et à un livre d'histoire qui a été réalisé collectivement, écrit collectivement. Donc ce soir avec moi, Arthur Grosjean est là, il est historien, il a participé au livre et il pourra répondre à vos questions si elles sortent un peu le champ de ce que j'ai exploré directement sur le terrain. Voilà. Donc je vais vous parler des réseaux d'aide aux militants algériens de Lyon. Tels que j'ai pu les reconstituer par un travail dans un premier temps de terrain, puis recroiser avec la petite équipe d'historiens pour l'exposition. Donc, qu'est-ce que c'était ma démarche au départ? Moi, c'était, j'étais portée par une surprise d'avoir découvert que des vieux Algériens et des vieux Français de l'âge de mes parents avaient été amis à Lyon, pendant cette guerre, alors que moi qui suis dans la génération, donc je suis née en 57, j'avais l'impression qu'on avait grandi, nous les enfants, très séparés par un poids symbolique, quelque chose qui n'était pas dit. Donc c'est cette question des amitiés franco-algériennes qui m'avait guidée pour faire le premier film et pour chercher qui avaient été ces gens qui avaient pu créer ces liens comme ça pendant la guerre. Et c'est comme ça qu'en cherchant avec ce fil d'amitié, j'étais tombée sur une première nébuleuse, si vous voulez, un premier groupe qui était un groupe de chrétiens mobilisés autour d'un prêtre qui s'appelait Albert Carteron, donc qui est décédé en Algérie en 92, mais qui était le fil rouge pour pouvoir capter la parole. Aussi bien des Algériens que des Français, c'est-à-dire que bon, du côté des Algériens, si c'était pour parler d'Albert, rendre hommage à ce qu'il avait fait, on voulait bien aller parler, au contraire on avait envie de rendre un petit peu pas un hommage mais une justice, voilà, c'était un lien de fraternité comme ça très fort. Et du côté des Français, en les interrogeant comme ça, eh bien, j'avais l'impression qu'effectivement, il avait noué des amitiés qui étaient toujours vivantes. Et c'est comme ça que j'ai gardé ce fil rouge qui structure le propos du film et qui permet de faire intervenir des témoins aussi, des deux côtés, aussi bien algériens que français. Et donc, en gros, c'est ça. Ça, c'est la première démarche. Et ensuite, en projetant ce film, j'avais eu quand même pas mal de retours de gens qui me disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Vous êtes payé par l'évêché? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas que les cathos, etc. » Et moi, intuitivement, j'avais l'impression que ça avait été très fort, ce mouvement catholique. Mais c'est vrai que j'étais aussi curieuse de savoir le reste. C'est pour ça qu'on a travaillé un petit peu plus systématiquement. J'ai enregistré de manière le plus exhaustive possible des témoignages verbaux, oraux, d'autres témoins, le plus large possible. Ils étaient transmis aux historiens qui, selon leur spécialité, vous avez vu aussi Marianne et Émilie, ceux qui ont suivi, qui sont plutôt dans le champ social, creusaient la question. Et tout ça a amené un panorama plus large. Mais quand il s'est agi de essayer de reconstituer les réseaux, ben finalement, c'était moi qui avait peut-être la vue d'ensemble des réseaux. Donc j'ai travaillé un petit peu comme une historienne à ce moment-là, bien que je ne sois pas, bien aidée par l'équipe, pour écrire ces deux articles sur la vue d'ensemble des réseaux. Donc, ce que je vais tenter, c'est une vie d'ensemble des réseaux. Voilà, après toute cette intro. Donc, pour commencer, je vais revenir sur Albert Carteron. Alors, qui a initié tous les soutiens du début de la guerre. Enfin, tous les soutiens, enfin, un grand nombre de soutiens dans le milieu catholique, mais pas seulement. Alors, qui est-il ? Donc, c'est un homme qui a quand même 36 ans quand commence la guerre d'Algérie. Et, ah non, je vous dis une bêtise. Il a 36 ans quand il est nommé dans la paroisse de la Part-Dieu, du Saint-Sacrement, en 48. Et c'est-à-dire, c'est très proche à ce moment-là du quartier de la place du Pont, d'un quartier où il y a beaucoup d'Algériens. Il y a à peu près 3000 travailleurs nord-africains, dont 2000 dans la caserne de la Part-Dieu, qui est tout à côté de la caserne. Et en 1950, il y a déjà un autre prêtre qui s'appelle Henri Lehmann, qui est un prêtre arabisant, qui a déjà fait plusieurs voyages d'études au Maghreb, qui suggère au cardinal Gerlier d'embaucher Carteron pour mener cette mission d'accueil des travailleurs nord-africains du diocèse et de Lyon. Albert Carteron, qui est ami avec Lehmann, accepte, à la condition de lui aussi pouvoir partir en Algérie pour apprendre la langue et connaître la culture. Donc, il fait un premier voyage en Algérie. Là, il commence à très bien apprendre la langue, à connaître la culture. En 1952, quand il revient, il s'installe avec Henri Lehmann dans un petit appartement au 28 rue Villeroy. Je ne sais pas si vous voyez où c'est la place qui est vers Bas-d'Orient. Et là, ils ont un petit appartement, mais tous les deux hébergent un grand nombre d'Algériens, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de problèmes de logement. Et en attendant de leur trouver des logements avec les réseaux chrétiens, d'action catholique, etc. Alors, là, ça, c'est un premier temps. Mais il va faire un deuxième voyage, Carteron. Il va retourner en 55 en Algérie. Et là, il explique que c'est cette fois-là qu'il va découvrir la force du sentiment nationaliste algérien. Alors déjà, il se disait, il se sentait très démuni face aux Algériens de Lyon, parce qu'on lui demandait de faire du social, et il dit, je le cite, « Je savais que le réservoir de la détresse était là-bas, en Algérie, un réservoir sans fond. Donc, il n'a pas les moyens, avec du social, de régler le problème. » Mais lors du deuxième voyage, je vais le lire, donc je le cite, parce qu'en fait, on connaît quand même pas mal de choses sur Carteron, parce qu'il a beaucoup écrit des textes pédagogiques pour les autres prêtres, pour la JOC, les mouvements d'action catholique. Et il a écrit aussi, on verra plus tard, lorsqu'il a été arrêté. Enfin, il n'a pas été arrêté, mais il a été convoqué au tribunal lors de l'affaire du Prado, et le cardinal lui a demandé de se justifier sur son action. Donc là, il écrit dans cette lettre, ce que je vous cite, c'est un texte de la fin où il s'explique à Henri Lehmann. Donc c'est un texte plus récent. Mais voilà ce qu'il explique. La première fois, j'avais bien compris la mentalité du peuple algérien, sauf son besoin d'indépendance. Je croyais qu'il n'y avait pas de militants politiques au milieu d'eux, mais en 1955, ayant trouvé un peu la clé pour entrer dans leur mentalité, j'ai découvert en étant balayeur, videur de pots de chambre, m'occupant des fous dans les caves de l'hôpital, qu'il y avait du militantisme partout et que le nationalisme était une réalité que je n'avais pas découvert lors de mon premier séjour. En fait, Carteron ne portait pas la soutane et travaillait donc dans un hôpital à Constantine et pour rentrer vraiment en contact avec le peuple algérien, et il se fait expulser d'Algérie par la police au motif qu'un prêtre n'a pas à se mélanger comme ça aux Algériens. Donc il revient en 1955 Et là, dès le début du conflit, eh bien, il commence à mobiliser les catholiques lyonnais, d'abord pour les aider à, pour les appeler à aider sur un plan humanitaire les Algériens, mais aussi pour leur expliquer ce que c'est que l'Algérie coloniale, la réalité de la vie des Algériens et que c'est le système colonial. Et de nombreux témoins, mais vraiment énormément, vont parler de son pouvoir de persuasion immense. Par exemple, j'en cite quelques-uns. Louis Costecharrère, c'est un monsieur en 55 qui est un ouvrier chrétien, ancien résistant. Enfin, il s'est engagé, il est très jeune, juste à la fin de la guerre. Il s'est retrouvé à l'armée, il est parti en Indochine. C'est un militant ouvrier, mais c'est un nationaliste fervent. La France est une et indivisible. Et pour lui, l'Algérie, c'est une suite logique du combat qu'il a mené en Indochine. Mais un jour, après un office, voilà, il a une discussion avec Arteron. Il l'invite à la maison pour poursuivre la discussion. Et il dit, en quelques heures, il a fait éclater mes convictions. Il l'a retourné. Donc c'était un para. En une heure de discussion, il a réussi à complètement retourner les choses. Et il explique qu'ensuite, il lui a présenté des militants, enfin des Algériens, qui étaient des élus de Philippeville, qui ont expliqué comment fonctionnait le système voilà, des élections là-bas. Ayant compris ça, il va se consacrer à l'information de ses camarades ouvriers, parce qu'il est syndicaliste dans les intersyndicales, en disant le chemin que j'ai fait, je vais aider d'autres à le faire. Donc ça va être sa principale activité, mais aussi de faire des cours d'alphabétisation à Montchat, parce qu'il habitait à Montchat. Voilà, les Costecharrère. Marie-Thérèse Paulette habite avec son mari Jean et leurs deux enfants dans une villa à Villeurbanne, à Croix-Luizet. C'est un couple plutôt bourgeois, mais militant d'action catholique ouvrière. À l'Union de la gauche socialiste, qui est l'ancêtre du PSU. Et là, c'est une autre méthode de Carteron. C'est Carteron qui arrive, qui dit à Marie-Thérèse, vous avez des voisins charmants, je vous présente Adria Garib, et qui s'en va. Et les deux femmes sympathisent. Il se trouve que, évidemment, le mari d'Adria est militant FLN, les familles sympathisent, ils présentent d'autres amis, et la maison de Mathé Paulette devient ce qu'appelle enfin, le PC de la Wilaya de Lyon. Ça, c'est un chef FLN qui dit ça. La Wilaya, c'est un découpage administratif que le FLN effectue de son territoire et de la France. Donc la Wilaya de Lyon, à l'époque, dans la première partie de la guerre, c'est pratiquement la moitié de la France, parce que ça va jusqu'à Marseille. Et le chef donc de cette Wilaya, il habite, il tient toutes ses réunions chez les Paulettes. Elle découvre aussi les conditions de vie de sa voisine, qui est, je crois, ce qu'ils sont 7 ou 8 dans 2 pièces, quoi. Un autre exemple, c'est Jean et Marguerite Carlian, qui font connaissance d'Albert Carteron après un office dans le 8e arrondissement. Il vient parler du problème de logement des Algériens et il lance un appel à l'aide. Donc eux ont une chambre de bonne, la proposent et le rencontrent, l'invitent à manger. Et là, ils sont complètement séduits, enfin plus que séduits, enfin impressionnés par la culture, et la connaissance et la conviction politique aussi de Carteron. Et ils vont s'engager aussi plus avant. En réactivant une ancienne association, l'ESANA, mais je pense que Marianne en a parlé, en devenant, enfin, il devient président de cette association d'alphabétisation des Algériens, mais qui est une association paritaire, c'est-à-dire qu'il y a OCA, des Algériens et des Français. Et ils savent très bien que ces Algériens sont des Algériens du FLN, qui recrutent, envoient leurs militants dans cette association, complètement chevillés au FLN, et en conscience. Donc, d'un côté, on voit Carteron qui mobilise. Alors, il paraît qu'il il était partout, dans toutes les réunions, et voilà, il était extrêmement actif. Et d'un autre côté, quels sont ses rapports avec les Algériens? Alors, comment j'ai pu reconstituer ça? Par des témoignages, beaucoup de témoignages, et notamment deux témoignages de l'un du chef de la wilaya de Lyon, en 58, et donc Amor Rezali et Hamid Gharib, lui était chef du MNA et est passé ensuite au FLN. Donc en fait, voilà, pour comprendre ce qui se passe, c'est que bon, l'exemple d'Amor est assez parlant. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à militer au PPA pour l'affaire des drapeaux, donc c'est même avant les événements de Sétif. Voilà, donc je vais prendre un petit coup. Donc c'est un militant de longue date et il est arrêté à plusieurs reprises. Et finalement, en camp, dans le camp d'Aflou, il rencontre un militant qui a été militant à Lyon, il s'appelle Bachir Boumaza, et qui lui dit. Parce que ce qu'il veut, c'est rejoindre la Tunisie. Vous savez qu'il y avait des postes importants, stratégiques au Maroc, en Tunisie. Donc Amor a le projet en sortant de camp d'aller en Tunisie, parce qu'il a perdu tout le lien avec l'organisation. Il a dû rester deux ans emprisonné, enfin interné. Et il n'a plus le contact avec le... Bah, parce que c'est complètement clandestin. Donc la seule solution, c'est d'aller dans les états-majors, donc d'aller en Tunisie. Et donc Boumaza lui dit, tu passes par Lyon, tu vas voir avec Carteron, et voilà, il va te piloter. Donc il sort de... Et comment, il dit, comment je vais faire pour trouver Carteron quand j'arrive à Lyon? Tu prends n'importe quel Algérien, tout le monde le connaît. Et c'est ce qui se passe, en fait, il arrive à Lyon, il a rien, il a absolument rien, il arrive à Lyon, il trouve un Algérien, il lui demande, il l'emmène chez Carteron. Il ne monte pas, il lui monte de loin parce que c'est se compromettre. Et il frappe chez Carteron. Carteron, où? Bonjour, t'as logé, t'as mangé. Donc première chose, c'est trouver un logement. Il lui trouve un logement chez un jeune journaliste de l'Écoliberté, qui était un journal chrétien. Et puis, donc il reste en contact et il vient régulièrement donc, au 28, comme ils disent, où de nombreux Algériens sont présents. Et là, il retrouve les chefs du FLN de Lyon. Et il se trouve qu'il était, lui, leur chef en Algérie. Donc tout de suite, il se retrouve connecté à la tête. Et là, je crois qu'il y en a un qui a un problème de santé. Au bout de deux mois, il devient chef de wilaya de Lyon. Et tout ça est passé donc par cette espèce de réseau de Carteron, enfin de contact créé par Albert Carteron. Alors, il nous dit aussi que je ne sais pas si vous avez vu dans le film que Albert Carteron connaissait très 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 bien la structure du FLN, parfaitement, parce qu'il a des textes où il explique à ses collègues, voilà, quand vous rencontrez en 59, en janvier 59, un Algérien à Lyon, vous rencontrez un militant du FLN. Il explique que tout le monde est à cette époque encadré et politisé. Et il explique très très bien dans ses textes pour les autres prêtres, voilà comment ça fonctionne. Et Amor explique aussi qu'au moment où le FLN va ouvrir un second front, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'été 58, c'est bien ça, c'est 58, en août 58, vous n'entendez pas? Il fallait le dire. Désolée, il faut le dire, je suis désolée. Donc je continue. Vous êtes arrêté où?
À 58, quand Ephraim est en deuxième front.
Voilà. Donc là, Hamor dit simplement, à ce moment-là, j'essayais à tout prix d'éviter Albert. À la fois pour ne pas le compromettre, mais à la fois, j'ai compris vraiment parce qu'il y allait avoir une discussion politique très sérieuse hein, sur le fait, parce que le second front, c'est quand même des attentats, pas de cible, pas évidemment civile, mais par exemple de dépôts d'essence que Mamourpiane a, ça fait bizarre de sentir comme ça, à Marseille, où c'est des incendies absolument gigantesques qui durent pendant plusieurs jours. Hamid Gharib, qui était le chef du MNA, explique que, avant même qu'il y ait une guerre, la guerre commence entre le MNA et le FLN à Lyon, Carteron l'appelle au 28 et lui dit « Voilà, je voudrais que tu me présentes le chef du MNA de Lyon. » Ah bon, pourquoi? Du speak, parce qu'il va y avoir des événements sanglants entre les FNN et le MNA, et j'aimerais organiser une rencontre entre les responsables, avant que ce soit irrémédiable. Et c'est là que Hamid va être amené à lui dire « Mais c'est moi. » Et va aller à cette rencontre avec un des responsables du FLN, organisé par Albert Carteron, pour essayer d'éviter le bain de sang. Voilà, ça montre là, en tout cas, le lien qu'il avait vraiment avec les chefs et puis sa connaissance politique du combat nationaliste. Et puis, ensuite, moi, j'ai pu retrouver d'autres éléments par des certificats qu'il avait... parce qu'il a fini sa vie en Algérie, au service des programmes de protection maternelle infantile. Et à 80 ans, il travaillait encore, et ses amis étant inquiets pour son avenir, ont entrepris une démarche de reconnaissance de service dans l'ALN, l'armée algérienne. Donc, il a rempli cette demande de pension militaire, en quelque sorte, et il a décrit lui-même ainsi son engagement. Il dit qu'il est responsable de l'hébergement, du transport de documents et du réseau de soutien aux emprisonnés et leurs familles. Ce que confirment des militants algériens derrière. On a connu le frère Albert était vraiment un soutien solide de notre cause. Alors, le centre de soutien aux détenus, on pourrait penser à une activité purement sociale. Or, en fait, c'est bien décrit par Gilbert Meynier, qui est un historien spécialiste du FLN, que c'est vraiment une branche très importante du FLN, de la Fédération de France du FLN, qui garantit aux militants que lorsqu'ils seront arrêtés, on prendra soin de leur famille et puis d'eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment un élément très important de stabilité. Et donc, c'est une branche qui doit être complètement légale, complètement clean. Il faut absolument qu'il ne se passe rien d'illégal pour qu'elle reste absolument stable. Et c'est vraiment très stratégique parce que ça reste complètement connecté aussi au FLN et tous les chefs sont à l'intérieur des prisons. C'est aussi un lieu de formation, c'est un lieu où on déclenche des mouvements, des grèves de la faim, etc. Donc ce n'est pas une petite activité connexe. Alors, donc on voit un peu Carteron comment est situé, mais qu'en est-il des gens qu'il a mobilisés? Alors, en fait, se positionne personnellement. C'est ça qui se passe. Par exemple, je t'ai parlé des Coste-Scherrer, le frère est à l'ancien para, il a aussi un frère qui est très engagé, eux, ils choisissent en toute conscience de rester dans du pur social, c'est-à-dire qu'ils ne veulent rien avoir à voir avec toute forme militaire. Donc ils se cantonnent à être au cours d'affectation, en formation et visiteurs de prison. Par ailleurs, un certain... Il y a aussi des gens qui travaillent comme visiteurs de prison, comme René Coste-Scherrer et aussi René Bressat, qui est beaucoup plus jeune, se rendent compte que leurs activités sont extrêmement contrôlées par Carteron. Et René Bressat, qui est très jeune et qui a moins de 20 ans et qui a vraiment envie d'aller plus loin, chaque fois qu'il fait un pas pour en faire un petit peu plus, il est extrêmement vivement repris en main et rappelé à l'ordre par les abbés qui veulent vraiment que ces activités en prison restent dans une stricte légalité. Et la moindre dérapage, il est au courant. Alors, Albert Carteron est au courant. Donc ça, on pourrait se dire encore une fois, voilà, Carteron veut se cantonner au social, mais en même temps, comme on sait aussi que c'est une politique algérienne de garder cette branche complètement impeccable, voilà, on voit qu'il est extrêmement bien, qu'il contrôle très très bien tout ça. Certains des catholiques mobilisés, sensibilisés par Carteron, eux vont aller vraiment dans l'action directe. C'est le cas du couple Paulette, qui avait ouvert sa maison à leur voisin, la maison est devenue PC de la Vilaya. Tout l'argent du sud de la France arrive chez eux, et en 1957, Jean Paulette quitte son emploi et devient permanent du FLN. Marie-Thérèse, elle compte et transporte l'argent avec d'autres catholiques, villeurbanaises, donc Elisabeth Forax, qui va passer le permis et conduire une 4L pour transporter l'argent et même des armes. Et ou Simone G, qui ne veut pas être reconnue, qui est aussi de la JOC et qui est agent de liaison du FLN. Jeune femme dès 57. Et avec ce petit noyau s'organise vraiment un premier réseau de soutien au FLN, ce petit noyau de chrétiens. Il y a aussi beaucoup de catholiques qui vont rester dans une position médiane et agir de manière discrète à la frontière d'action sociale. Par exemple, les Courbières, qui sont des militants de la Croix-Rousse, ils vont rencontrer Carteron dans le cadre de leurs activités à la Confédération syndicale des familles. Donc, c'est des militants du logement. À la Grande Côte, à l'époque, il n'y a que des Algériens et Madame Courbière décrit qu'il n'y a plus d'hommes à une époque. Tous les hommes sont en prison. La répression est féroce et ils sont pratiquement tous arrêtés. Et qu'est-ce qui se passe? Ils travaillent en lien avec Carteron et avec leur réseau de travailleuses familiales qui repèrent des familles sans père, sans ressources. Et ils reçoivent l'argent de Carteron. Alors ils décrivent des boîtes à chaussures avec les cartons souliers, avec des sous bien rangés comme ça, que le père amène et qu'eux redistribuent par leur travailleuse familiale. Ils savent très bien que l'argent, c'est l'argent du FLN, des cotisations. Donc, mais en même temps, ils ne posent pas plus d'affirmations politiques que ça, que savoir d'où l'argent vient et porter secours aux familles de manière efficace. Il y a un côté très pragmatique dans tout ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont agir comme ça sans vraiment mettre des mots sur ce qu'ils font. Disons, on le fait parce que c'est normal. Et voilà. Donc, pour conclure sur cette première période et ce premier réseau, et du rôle de Carteron, on ne peut pas dire que c'est un chef de réseau, vraiment, ce serait, puisqu'il est plutôt un initiateur d'un éventail de soutien qui vont de l'action sociale pure à l'action directe avec le FLN. Il y a une partie de son action qui est, tout ça semble très très pensé, très ajusté. En lumière, une activité sociale qui emprunte des voies légales, et puis une part d'activité plus cachée, qui en lien avec le FLN direct. À mort, Rezali décrit comme ça, je trouve que c'est pas mal. Il dit, Albert comprenait la violence. Il n'approuvait pas parce qu'il était non violent, il était curé, comme il disait. Mais il la comprenait et il ne condamnait pas. Donc, on sait qu'il est impliqué dans des filières pour faire passer les mitons en Suisse, mais on sait aussi que de nombreux d'églises, de centres jésuites, de maisons familiales chrétiennes sont impliqués dans ces relais pour faire passer les militants en Suisse. Mais en même temps, il reste vraiment en phase avec les objectifs de l'Église, en lien étroit avec le cardinal, avec sa hiérarchie, qui l'informe. Un autre prêtre dit qu'il est vraiment l'oreille du cardinal, mais qu'il entend aussi pour lui. Et le cardinal ne va pas hésiter à prendre sa défense lors de l'affaire du Prado, qui est l'affaire de Lyon célèbre. En deux mots, Albert Carteron a mobilisé les prêtres du Prado à Saint-Fond pour qu'ils accueillent, enfin qu'ils prêtent un local au service social du FLN. Il y a une rave, tout le monde est arrêté, les Algériens, les prêtres, et tout le monde. Quoi. Mais avant, Carteron avait constitué un dossier sur la torture au commissariat de la rue Vauban, parce que la torture était pratiquée à Lyon. Et il y avait un dossier avec des photos, des témoignages, etc. Et il y avait aussi une tentative de la police de lui couper court à tout ça, mais il avait déjà transmis ce dossier au cardinal. Et donc le cardinal Gerlier et le cardinal, comment il s'appelle, de la mission de France,
Liénard,
vont faire un communiqué qui dit que des prêtres ont agi dans le cadre de leur ministère et que les aveux des Algériens ont été
extorqués
par des sévices. Et donc c'est la première fois que la torture est dénoncée en France par des gens haut placés finalement. C'est au niveau de... Voilà. Donc, c'est sûr qu'il est un catalyseur de tous ces engagements, qu'il y a des catholiques qui vont aller très loin, et que, politiquement en tout cas, mais qu'il donne surtout beaucoup de, je pense, d'éléments de réflexion, et il nourrit un mouvement vraiment d'avant-garde. Enfin, ça fait énormément de gens très 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 bien informés avec cette personne. Donc voilà pour le premier temps et ce réseau chrétien. Donc, avant de faire cette tentative d'ensemble, je vais vous parler du réseau Beuglin, qui est en fait un deuxième réseau. Alors, comment je l'ai connu ? Alors là, c'était un peu plus, comment dire, préparé, enfin, et même vraiment bien préparé, parce qu'il y avait un mémoire de maîtrise qui avait été fait en 1922, c'est ça, Massard Guibaud, ouais. D'histoire orale, où vraiment c'était un travail très très fouillé, quelqu'un qui avait interrogé beaucoup de personnes sur ce thème des solidarités, enfin d'ailleurs plus des porteurs de valises, enfin des réseaux. Et Geneviève Massard Guibaud avait rencontré beaucoup de témoins qui étaient vivants, et bon, malheureusement, quand j'ai fait mon travail, beaucoup de personnes avaient disparu. Et il y a énormément d'éléments, mais elle avait quand même beaucoup plus repéré ce réseau autour de Jean-Marie Beuglin, qui est un réseau qui va démarrer à partir de 59. Et elle n'avait pas du tout capté l'importance de tous ces engagements chrétiens, enfin catholiques. Enfin, pas du tout, c'est peut-être, mais enfin, elle n'avait pas creusé ça comme vraiment un premier réseau important. Donc Beuglin est plus connu certainement parce qu'il fait partie d'un milieu intellectuel. Donc on connaît, il était le secrétaire général du Théâtre de la Cité aux côtés de Roger Planchon. Donc qui est-il ? Alors lui, il a été aussi résistant avec son père, très jeune résistant pendant la Seconde Guerre mondiale à la fin. Puis il a travaillé comme journaliste, mais il s'est senti très vite à l'étroit dans ce travail. Il s'est fait virer du
des jeunesses communistes, et puis après de la fédération anarchiste, enfin des organes de presse, parce que ça était toujours un peu à côté des coups. Et c'est vraiment dans le champ artistique qu'il a trouvé sa voie. Il a participé vraiment au démarrage du Théâtre de la Cité avec Planchon. Donc au moment de la guerre d'Algérie, il est secrétaire général, et c'est encore un théâtre qui débute, et il fait aussi un petit peu les relations publiques. Donc il monte des groupes d'étudiants qui sont des relais. Et il a à Grenoble un relais qui est un étudiant algérien. Et un jour cet étudiant n'est plus là, disparaît. C'est là que ses camarades disent à Beuglin que bon, il a disparu rue Vauban. C'est là que part toute son histoire, parce que bon, il avait quand même bien conscience de tout ce qui se passait. Enfin, il avait déjà été scandalisé par du détournement de l'avion avec les chefs du FLN, etc. Il avait couvert en tant que journaliste le mouvement des rappelés qui arrêtaient les trains. Mais là, c'est le déclic, il dit camarade de ce garçon qui a disparu, je suis à votre service et vous avez besoin de moi. Et comme il est instructeur des auberges de jeunesse, il voyage beaucoup, donc il pense pouvoir rendre des services. Et quelques temps après, le premier réseau donc, dont je vous ai parlé, avec les Paulettes, est victime d'un énorme coup de filet, 460 personnes sont arrêtées en France, un certain nombre de Français sont arrêtés, beaucoup d'Algériens sont arrêtés, le chef de Vilaya, etc. Et les autres sont en fuite. Les Paulettes, un certain nombre de Français vont partir en Suisse, puis en Allemagne. Mais certaines personnes échappent. Et là, donc, les Algériens vont présenter à Beuglin ceux qui ne sont pas fait arrêter en 59. Alors, il va rencontrer, par exemple, le professeur Gozit, je ne sais pas si on dit Gozit ou Gozit, qui est un astronome qui a, je crois, à Saint-Genis-la-Malle, ou à Moulins, il y a à l'époque un observatoire. Et il lui présente aussi des libertaires qui sont à Mâcon, rassemblés autour d'un anarchiste qui s'appelle Guy Bourgeois et qui organise des passages vers la Suisse, qui sont en lien avec les réseaux lyonnais. Il présente aussi Madame Desvignes et sa fille et son gendre, qui sont aussi des gens qui sont engagés, qui hébergent des Algériens, des chefs du FLN, et qui sont des francs-maçons. Donc, lui, tirant des leçons de la résistance, va vraiment mettre en place un vrai réseau en toute conscience, organisé, cloisonné. Donc il choisit des personnes très diverses et qui eux-mêmes recrutent d'autres personnes. Et lui ne connaît que les têtes de réseau. Donc il va recruter des protestants avec Blaise de Purie et Jean Masson qui est aussi un non-violent. Un catholique de la CFTC, Jacques Bouzache, un communiste. Il raccorde aussi la branche qui était déjà en place avec les libres penseurs et les francs-maçons autour de l'astronome Madame Desvignes. Il recrute des agents de liaison, en fait des agentes de liaison. Donc à Lyon, ce sont des porteuses de valises. Donc Nicole Brochier, qui est étudiante en philosophie, qui laisse ses études, qui prend un emploi à mi-temps théâtre de la Cité, comme couverture, et qui est agent de liaison, qui était une vraie petite machine, dit Beuglin. Un peu plus tard, Claudie Duhamel, une étudiante en histoire à Aix, qui elle aussi laisse ses études pour venir à Lyon, et qui appartient aux jeunesses communistes, enfin non, à l'Union des jeunes communistes, et qui va être exclue quand elle sera arrêtée. Et puis enfin, à l'été 60, il recrute Anne Price, qui est une fille de pasteur de Strasbourg, qu'il a connue par l'intermédiaire de Blaise de Purie. Donc ces trois jeunes femmes vont être de véritables agents de liaison. C'est-à-dire qu'elles ne font que ça. Enfin, Anne Price essaye de reprendre ses études aux Beaux-Arts, mais c'est à ce moment-là que le réseau Beuglin va tomber et qu'elle va prendre la fuite vers par la Suisse, etc., la Suisse et le Maroc, alors que Nicole et Claudie vont être arrêtées, toutes les deux. Alors, on connaît, en fait, finalement, on n'entend plus parler, Beuglin s'exprime plus, mais est encore là, s'exprime plus facilement, mais on n'en connaît pas tant que ça de ce réseau, parce que, en fait, lui ne connaît que les têtes. Et derrière, par exemple, on a parfois, dans certaines branches, on n'a pratiquement aucun relais. Donc, ce n'est pas forcément très facile à reconstituer. Alors, les catholiques restent mobilisés. Donc, je vous ai parlé de Plouzage, qui est permanent CFTC. J'ai rencontré Madeleine Delessert, qui était permanente à l'Union départementale CFTC du Rhône, qui explique que oui, effectivement, c'était très perméable à cette cause indépendantiste, mais jamais de manière officielle. Il y avait par exemple un des permanents d'Union départementale qui était algérien et, comme vous le savez, lié au FLN. Ça servait de lieu de dépôt pour l'argent, pour les collectes, mais il n'y avait évidemment pas de prise de position officielle pour l'indépendance. Pour l'indépendance, je pense aussi assez vite, peut-être pas au début, mais en tout cas pas de soutien officiel au FLN. C'est ça que je voulais dire. Donc il y avait une espèce de soutien assez perméable, voilà. Alors que pour le Parti communiste, c'est beaucoup plus dur, parce que la Fédération du Rhône du Parti communiste est complètement opposée à toute aide directe au FLN. Maurice Alfred, qui est communiste, est recruté par Beuglin lors d'un voyage, parce que lui fait un voyage pour le théâtre, il va voir un théâtre de Leipzig, en Allemagne de l'Est. Donc il fait le voyage avec un communiste, et là il découvre qu'à l'Est, il y a énormément de mouvements de soutien à l'indépendance algérienne. Et en rentrant, Maurice Alfred propose ses services. Donc Beuglin sait qu'il va recruter ses camarades, mais il ne les connaît pas. Il sait aussi que il est extrêmement actif, ce militant communiste. Alors il sert de boîte aux lettres, il fait des transports, d'hébergement. C'est lui qui prend en charge Beuglin lorsqu'il son réseau tombe. Mais le soir même où le réseau tombe, il reçoit la visite d'un responsable du PC local qui lui demande de rendre sa carte. Qui revient le désigner à la police. Voilà. Donc, il est difficile de... Et Beuglin dit, oui, à son avis, il y a à peu près un tiers de communistes dans ce réseau, mais je ne les ai pas retrouvés. Alors, en plus, donc, voilà, en gros, c'est deux noyaux. Donc, une nébuleuse un peu catholique, et puis un noyau très structuré, mais très clandestin, qui est difficile à reconstituer, qui ne sont pas du tout dans les mêmes temporalités. Mais à côté de ça, il y a d'autres personnes qui sont engagées dans des soutiens directs au FLN. Au tout début, il y a des libertaires et des trotskistes qui s'engagent avec les catholiques. Par exemple, Jean Ramey, qui est libertaire, il travaille avec les Paulettes. Et comme Jean Paulette, dès 1957, il est appointé par le FLN. Chauvin, le trotskiste, lui, il organise son réseau dès le début, en même temps que les chrétiens, ils se connaissent tous. Et il recrute par exemple Michel et Marie-Joseph Jean, qui sont des étudiants, qui eux vont être arrêtés en 1959, alors que Chauvin peut s'échapper. Et très récemment, j'ai appris par la fille de Chauvin, qu'il avait rejoint un groupe trotskiste au Maroc qui avait mis en place une usine d'armement. Et c'est Carteron qui l'a emmené avec son frère, je crois, rejoindre leur père au Maroc. Donc en fait, ils étaient ils se connaissaient très bien. Donc voilà, ça, ces réseaux, finalement. Les réseaux libertaires et trotskistes, ils ont duré tout au long de la guerre. Ils ont réussi à échapper, pas tout à fait à la fin, Ramey s'est fait arrêter, mais en tout cas, Chauvin jusqu'au bout. Il y a aussi des personnes qui travaillent directement avec le FLN et qui sont difficiles à repérer. et a dénombré par exemple Jean-François Boursier, que j'ai interrogé, qui a commencé l'alphabétisation, il était très très jeune, il était lycéen, il a commencé à donner des cours d'alphabétisation, il a été appelé, et quand il est rentré d'Algérie, il a retrouvé ses copains algériens qui ont demandé de rendre des services, il a transporté voilà, de l'argent, il a reçu de l'argent, il a aidé ses amis, quoi. Il y a par exemple en tout dans la presse le cas de Josette Auger, une jeune femme de 25 ans qui est absolument connue par aucun autre membre des réseaux. Elle était locataire d'une villa dans laquelle il y a eu un véritable arsenal qui a été retrouvé. Bon, bah, elle a fait plusieurs années de prison, complètement isolée. Et aussi ce qu'il y a à noter et qui est très très important quand on est beaucoup sur le terrain, c'est que ces militants algériens, ces hommes seuls algériens qui sont là, à Lyon, beaucoup ont des épouses françaises, énormément, et qu'elles sont des soutiens très très actifs à leur mari algérien. Et elles aussi, elles sont difficiles à retrouver. Ce qui est frappant, c'est qu'elles sont à tous les étages du FLN. On a des... Georgette Saïd, son mari est ouvrier, et puis on a les chefs de Vilaya, ils ont pratiquement tous des épouses françaises. On a l'avocat Ben Dimerad, des étudiants, Belach, tous ont des épouses françaises. Mais aussi un membre d'un groupe de choc qui s'appelle Miloud Bougandoura et qui va être guillotiné à Montluc. Lui aussi avait une épouse française. Et elles sont les soutiens parfaits parce que femmes françaises et elles sont souvent amenées à transporter toutes sortes de choses, comme les Algériennes, tout à fait comme les épouses algériennes. Voilà, donc en fait, finalement, ces réseaux, ces aides aux militants indépendantistes, elles commencent en 1955, elles courent tout au long de la guerre, elles sont exercées en quotidien. Mais on peut essayer de cerner un peu plus précisément en quoi consistent ces soutiens. Alors, en fait, c'est un contexte très particulier. C'est une guerre, c'est vraiment un volet de la guerre qui se déroule en métropole de manière clandestine. Et finalement, les soutiens directs de ces Français militants algériens leur apportent des droits dont ils sont privés. Leurs logements sont perquisitionnés perpétuellement jour et nuit quand ils en ont. Ils ne peuvent pas circuler, ils sont sans arrêt arrêtés. Donc tout ce qui est activité logement, cache-cache, transport sont exercés par les Français. Et les maisons des Français vont devenir les bases de l'organisation politique clandestine des Algériens. Donc c'est des lieux d'accueil, des lieux de vie, des caches, souvent des boîtes aux lettres, des lieux de réunion, et voilà, ils sont vraiment, vraiment, vraiment vitales. Les Français donc font des transports, ils transportent des fonds, de l'argent, des documents, des militants, exceptionnellement des armes, en France, mais aussi au travers des frontières de l'Europe. Les Français donc jouent aussi sur un autre plan. C'est dans la guerre d'opinion que livre en France la Fédération de France du FLN. Il y a aussi une commission information, presse information FLN, qui cherche à donner l'écho le plus possible, le plus large possible à sa cause, et en opposition évidemment au MNA. Donc pour cela, il mobilise les intellectuels. Et cette activité du FLN recoupe aussi une intense activité éditoriale qui est menée en France, parce qu'à l'époque, la radio était vraiment sous contrôle d'État, et énormément d'intellectuels et même d'associations qui se mobilisent pour apporter une information indépendante. Les réseaux lyonnais aident aussi à l'impression de la diffusion des tracts des journaux du FLN. Ils fournissent encre et papier. Ils assurent les planques successives des imprimeries. La première planque est dans l'église du Saint-Sacrement de Carteron et ça finit à la maison de Roger Vaillant à Meillonnas dans l'Inde, après le démantèlement du réseau Beuglin. Alors, il y a beaucoup enfin, vous savez certainement qu'il y a eu beaucoup d'activités éditoriales pour la guerre d'Algérie, de parisiennes, etc. Mais aussi, il faut voir que sur Lyon, il y a énormément de bulletins, des bulletins lycéens, étudiants, paroissiaux, des feuilles écrites, des manifestes, des réunions publiques. Et souvent, les Algériens sont en relais pour faire passer leur information sur l'Algérie. Donc, dans cet ensemble de tâches, finalement, il me semblait que les familles d'appartenance des personnes influaient finalement assez peu ce type de tâches à faire. Et finalement, tous se mettent au service de la cause des Algériens et répondent aux besoins. Ce qu'on peut différencier, c'est quand même les types d'engagement selon les époques, parce que, effectivement, le conflit est long et le contexte évolue. Par exemple, on peut dire que les acteurs de la deuxième séquence, c'est-à-dire après 59 avec Beuglin, ne sont pas confrontés au même effet. En 57, il y a un changement à la direction de la Fédération de France du FLN qui conduit à un encadrement beaucoup plus autoritaire des Algériens de France. À partir de 58, par exemple, il leur est interdit de parler directement à des Français sans en référer à leurs supérieurs. Donc j'ai des témoignages de Français qui ont quitté à ce moment-là les soutiens parce qu'il y avait vraiment un changement. On leur demandait d'en faire plus aussi. Donc lorsque Beuglin prend le relais en 59, il n'a pas les mêmes interlocuteurs que les acteurs du début. Il n'y a pas les mêmes liens disons que ses interlocuteurs sont moins libres. Donc cette question, il y a une question de l'instrumentalisation, parce que c'est vrai que les Français se mettent au service de la cause des Algériens, mais cette question de l'instrumentalisation de leur action se pose certainement de manière plus aiguë dans cette deuxième séquence où vraiment le FLN est organisé de manière très, très autoritaire. C'est un État qui est déjà en place avec sa commission, enfin c'est sa fonction de justice, d'un prélèvement d'impôts, de sanctions très, très, très brutales et très cruelles, etc. Mais Beuglin, lui, admet volontiers avoir joué le rôle de l'idiot utile, même s'il reste absolument horrifié des pratiques du FLN. Lui, il dit qu'il est un homme de théâtre, qu'il a fait un peu de politique, qu'il s'est mis au service d'une cause qu'il estimait juste et qu'il a essayé d'être pragmatique, sans état d'âme, en se contenant à un registre technique. Alors, si on revient à Carteron, c'était certainement autrement. Parce que d'abord, Carteron, il avait une connaissance politique du monde algérien, du FLN, qui était antérieur au conflit. Et en plus, le fait d'être arabophone et d'avoir une activité sociale très importante faisait qu'il connaissait tous les échelles du fait, tous les niveaux, le FLN. Il pouvait communiquer grâce à l'arabe à tous les étages de l'appareil. Ce qui est exceptionnel, parce que bon, j'ai parlé avec un prêtre qui est d'Avzi, qui était un prêtre qui était avec Janson, qui appréciait pas énormément Carteron, parce qu'il était quand même beaucoup trop institutionnel, trop respectueux de l'institution, mais qui disait qu'il avait un truc exceptionnel par rapport à tous les gens des réseaux, c'est cette connaissance de l'arabe. Ce qui faisait que les autres parlaient avec les chefs, avec les personnes qui parlaient le français, et avaient cette entrée-là sur le mouvement. Et le fait aussi, enfin les réactions d'abord quand il dit qu'il fallait absolument au moment des attentats que j'évite Albert, dénotait quelque chose, il me semble, d'une relation qui devait être quand même habituée à être dans l'échange. Et alors qu'à un moment où l'échange n'était plus possible, puisque ça avait été décidé, ces attentats avaient été décidés à la tête, il fallait appliquer. Alors là, il y a un débat. Souvent les gens des porteurs de valises et réseaux justifient leur action en disant que grâce à cette présence auprès du FLN, ils ont pu arrêter les attentats. Alors, ces gens sont qui disent ça, et c'est couramment repris, c'est une excellente justification, enfin, en tout cas, c'est un effet très positif de cet engagement. Ali Haroun, qui était un des chefs du FLN de l'époque, qui a écrit un gros livre qui s'appelle La 7e Vilaya, a dit que c'était impossible qu'un Français ait quelconque rôle à jouer là-dedans, puisque personne n'était au courant. De ces attentats. Ils étaient absolument secrets, seuls les cinq chefs étaient au courant, et toute la France devait être déclenchée à la même date. Donc c'était absolument impossible que Janson ait été au courant et que ce n'était pas le rapport. Pour eux, les Algériens, les Français devaient être des exécutants. Et il me semble que ça me semble quand même, je penserais quand même pour cette version-là, pour intuitivement ce que j'en ai vu, d'une part Beuglin qui dit « moi j'étais dans un registre technique et de toute manière j'avais rien à dire », ou Amor qui dit « je me planquais parce que Carteron, là, c'était pas le moment de le voir ». Parce que, voilà, à ce moment-là, de toute manière, il n'y avait rien à discuter. Donc, là, ce qui change aussi dans le contexte, et qui est très différent entre les deux réseaux, c'est que les deux réseaux, entre guillemets, enfin les deux temps de ces engagements, c'est que dans le premier temps, les gens parlent spontanément du MNA, ils ont connu des militants du MNA, ça leur a posé des problèmes, ces deux mouvements. Alors que les gens qui sont engagés dans une partie, souvent l'alternative ne se pose même pas. C'est un peu logique parce qu'à partir de 1958, le MENA a complètement perdu, quoi. Enfin, complètement éliminé à Lyon. Donc y a pas de... la question ne se pose pas. Mais ce qui est quand même parfois plus étonnant, c'est que ces militants français reprennent complètement le discours du FLN, parfois en disant que bon, le MENA a été noyauté par la police, mais même parfois en disant qu'il n'avait pas un projet qui n'était pas pour l'indépendance. Donc, dans le deuxième temps, le MENA ne connaît plus. Il y a aussi une évolution au niveau du contexte général de la connaissance du conflit, de la connaissance de la colonisation, du contexte médiatique, en fait. Après 59, on sait beaucoup plus de choses sur... Enfin, l'opinion est quand même plus informée sur ce qui se passe en Algérie. Donc, au début, il y a quand même, avec tous ces soutiens catholiques, il y a quand même une certaine ambiguïté qui est bien pratique pour ces militants catholiques. D'une certaine manière, elles ne se disent pas vraiment ce qu'elles font. Et ça va bien, parce que c'est une guerre qui ne dit pas vraiment son nom. Il n'y a pas de guerre. Donc, ils ne sont pas en train de trahir. Il n'y a pas de guerre, ils font du social, tout le monde est français, etc. En 59, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair et les gens, quand ils s'engagent en 59, ils s'engagent directement en clandestinité. Et ils donnent un autre portrait à leur action. Enfin, ils donnent vraiment une. Ils portent aussi l'idée de faire ce qu'on dirait aujourd'hui un coming out, mais c'est complètement. Mais je veux dire, d'aller à un moment donné reporter sur la place publique ce combat, avec cette idée-là. Et d'un côté, il y a une ambiguïté, de la discrétion, oui, non, mais moi je n'ai pas fait grand-chose. D'un autre côté, il y a un projet d'aller porter ça vraiment dans le champ symbolique. C'est comme ça que les acteurs du deuxième réseau, notamment les étudiants et étudiantes, vont faire éruption sur la scène médiatique en 61, à l'occasion du procès de la Vilaya 3, c'est-à-dire le procès où tout le réseau autour de Beuglin, mais aussi les Algériens, sont tombés. Et là, ils vont revendiquer leur engagement. Ils vont utiliser, comme Janson en septembre 60, le tribunal comme un lieu de diffusion d'idées et de revendications. Donc à Lyon, c'est un procès qui va arriver à un moment donné où la gauche cherche à reconstruire une unité sur la question algérienne. Puisque la première manifestation unitaire a lieu le 27 octobre 61, organisée par l'ensemble des forces syndicales sous les modes d'ordre, de paix et d'autodétermination. Donc, c'est vrai que c'était des gens qui avaient, tous ces gens arrêtés et qui étaient dans leur procès, c'était des gens qui avaient embarrassé toutes les organisations auxquelles ils appartenaient, ou qui avaient été exclus, ou qui étaient, on s'était désolidarisé d'eux. Et vers la fin de la guerre, il y a une unité qui va se refabriquer autour donc de ce projet d'autodétermination, de sortie du conflit. Et c'est le 19 novembre 1962, c'est le Secours populaire qui lance une grande campagne qui rassemble vraiment largement à gauche pour la libération des jeunes universitaires lyonnais qui restent encore incarcérés 8 mois après les accords d'Évian, c'est-à-dire aux accords d'Évian en mars. Les Algériens sont sortis, mais les Français, non. Et ils vont sortir en décembre 63, grâce à des mobilisations importantes. Donc, c'est aussi dans ce moment d'émergence, que, au moment du procès Janson, que Jean-Paul Sartre va utiliser ce terme de porteur de valise, qui est devenu la figure centrale, la représentation principale de la personne qui a des Algériens pendant la guerre. C'est-à-dire un homme, c'est un porteur, un plutôt intellectuel et plutôt parisien. À cette époque, lui voit le FLN, hein, rester seul, comme une force révolutionnaire, vraiment une force importante, qui peut être une force de salut, pour lutter contre la menace fasciste, de la fin du conflit, mais aussi bien du côté français que du côté algérien. Voilà, ce serait un modèle pour la gauche. Donc cette dernière séquence de sortie de conflit, où avec ces grands procès médiatiques, les intellectuels qui prennent la parole, cristallise un petit peu les choses. La part d'ombre et la part de lumière autour de cette activité de résistance à la guerre d'Algérie, ce qui va être gardé en mémoire et ce qui va être oublié. Alors, le MNA, pendant longtemps, on l'oublie comme porteur du projet nationaliste. Les premiers réseaux chrétiens précurseurs, pas mal oubliés aussi. À Lyon, par exemple, on va se rappeler, et c'est pour ça que je pense que le mémoire de Massard Guibaud parle surtout du réseau Beuglin, on va se rappeler des étudiants, des intellectuels arrêtés dans le Beuglin, et très peu de ses premiers demoiselles. Et puis, oublier aussi les femmes, parce qu'en fait, les porteurs de valises sont principalement des porteuses. Mais ça aussi, c'est un petit peu oublié. Voilà, pour terminer, simplement, je voulais dire pas une difficulté, la difficulté de dénombrer ces soutiens. Plusieurs problèmes pour cela. D'abord, le problème de définition. Vous avez vu que c'est très large, une très large palette. Le porteur de valise, l'agent de liaison, c'est une manière d'aider le FLN. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir comme forme de soutien direct ? Que les agents de liaison, les gens qui ont hébergé des militants en connaissance de cause, les gens qui continuent leurs activités associatives en se connectant en conscience au FLN, comme les Courbières, les avocats qui vont constituer des comités pour aller défendre les Algériens, l'Algérie, etc. Voilà, donc déjà un problème de définition. En plus, disons que c'est vraiment des clics individuels. Ce n'est pas dicté par une organisation. Donc souvent les gens disent on a fait ça parce que c'était normal. Donc se manifestent pas forcément, sont souvent des gens discrets. Blaise de Burie dit lui-même, si je n'avais pas arrêté, vous n'auriez jamais entendu parler de moi. Donc on peut supposer que les gens qui n'ont pas été arrêtés, on ne les connaît pas. Ce qu'ils ont en commun, tous ces gens, c'est que, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils Il y a une référence constante à la Première Guerre, enfin Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi, la résistance. Les plus âgés, nombreux sont ceux qui ont été actifs dans la résistance, donc Jean-Marie Beuglin, Jean Paulette, Madame Lévy, les avocats, Pierre Cohen, Paul Boucher. Même des jeunes, très jeunes, qui ont été marqués, comme Marie-Josée Jean, qui est enfant, on se rappelle des trains qui revenaient des camps, Nicole Cadieux, qui se rappelle des photos que lui montrait son père, des camps, ils n'ont plus jamais ça. Pour les plus jeunes encore, c'est un modèle, il faut faire comme nos aînés, il faut faire la même chose. Ça, pratiquement, dans tous les soutiens, on retrouve cette référence. Voilà. Et puis je vous rappelle aussi la difficulté, enfin la grande question sur les communistes lyonnais. Je ne les ai pas trouvés, donc difficile de les dénombrer. À mort, Rézalie m'avait dit qu'à Paris, il y avait une section entière dans un quartier qui aidait le FLN, par exemple. Je sais pas si ça s'est passé à Lyon ou pas, donc il faudrait continuer à chercher. Et puis aussi, comment pour comptabiliser, il faut aussi voir que c'est évolutif. Par exemple, c'est pas du tout le même nom, mais ils sont beaucoup plus nombreux à la fin de la guerre qu'au début. Ça, c'est bien noté par Jean Paulette, qui, quand son réseau tombe, part en Suisse, il rejoint la direction de la fédération France du FLN, qui alors est en Allemagne, et puis après, il revient clandestinement en 62, en 61-62. Et là, il dit que c'est incroyable que les soutiens se sont multipliés entre 59 et 62, qu'il peut traverser la France de maison en maison tranquillement. Il dit aussi que la répression s'est considérablement durcie, c'est bien plus efficace. Donc, énormément de gens ont simplement ouvert leur maison. Donc, voilà, et on en trouve, là, dans l'exposition, parmi les visiteurs, voilà, on a rencontré un petit monsieur de l'Ain qui avait une grange et qui avait prêté sa grange. C'est par des connexions comme ça qu'on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont inconnus et que, voilà, qu'il faudrait peut-être compter. Voilà, donc pour l'instant, je pense qu'il y a peut-être pendant très longtemps, il sera difficile de dénombrer ses soutiens. Voilà, j'ai terminé, je suis à disposition pour les questions.